nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Différentes les méthodes pour un ouvrage de réflexion philosophique et pour un ouvrage médical, ou encore pour la critique littéraire. Henri Mondeur, médecin et chirurgien, aurait voulu, plus précisément, être dessinateur. Mais le hasard, une orientation autre, mais toujours en parallèle à sa carrière médicale, le goût pour le dessin et pour la poésie. Il était un spécialiste de Mallarmé. Et pour la critique littéraire, le type même de l'encyclopédiste. Henri Mondeur était au micro de Robert Mallet le 6 mai 1954 sur la chaîne nationale.
Domaine de l'esprit, une émission de Michel Manol, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Henri Mondeur de l'Académie française. Entretien avec Robert Mallet. Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie française, lira des extraits de Mallarmé plus intime. Assistant de production, Harold Portnoy.
Monsieur le professeur, vous avez su nous intéresser aux plus grands esprits, qu'ils fussent ceux des écrivains ou ceux des hommes de science. Aujourd'hui, c'est à vous que je voudrais vous demander de vous intéresser et de nous intéresser. Vous avez toujours été extrêmement discret sur votre propre formation. Vous avez obéi là certainement à des mobiles de modestie. Je voudrais vous demander aujourd'hui de rompre avec cette habitude, si vous le permettez. Et tout d'abord, je voudrais savoir quelles ont été les principales influences qui ont joué dans votre enfance sur votre esprit. Les influences du lieu, les influences provinciales, si je peux dire, et aussi les influences familiales.
Je suis né dans un chef-lieu de canton d'Auvergne, que son altitude expose à être couvert de neige pendant 6 ou 7 mois par an, et dans une école où mon père dirigeait un cours complémentaire auquel, depuis, on a bien voulu donner son nom. Une ligne de montagne à l'horizon, une route nationale où partait et revenait au bruit des grelots chaque jour la patache d'un courrier dont je n'attendais rien, mais qui me semblait chargé d'inconnus, une allée de tilleuls, et en haut, au premier coude d'un chemin, 3 ou 4 peupliers parlant aussi d'évasion. Voilà les premières lignes d'un décor qui ne m'a pas quitté, sans oublier le petit jardin en pente inclinée et les premières roses et les primes vertes. Mes parents, un père sévère, austère, exemplaire, ne riant pas, souriant peu, une mère très tendre, gaie, spirituelle, elle lisait volontiers, comme toutes les mères peut-être, comme celle de Barrès qui lisait Walter Scott, comme celle de Joseph de Maistre qui aimait Racine et dressait ainsi son fils à préférer toujours l'ambroisie à la piquette.
Avez-vous le sentiment que vous devez beaucoup à votre hérédité provinciale? Vous sentez-vous un Auvergnat?
Oui, je crois que quelques-uns de mes côtés sont de cette origine vraie.
Et pouvez-vous me dire vers quel jeu et quelles occupations vous étiez porté par nature dans votre enfance?
J'ai aimé tous les jeux d'une enfance villageoise jusqu'à 10 ans et plus tard bien d'autres. De 10 ans à 17 ans, notamment ceux de l'internat d'un lycée, j'ai même été demi dans une équipe de football. Mais déjà à 16 ans, sombre présage, désigné pour prendre la parole au cours d'un banquet de match à Clermont-Ferrand.
Et quelle a été votre première vocation?
Être interne à 10 ans dans un lycée mené au tambour est un très dur début. Si j'osais, je vous dirais que ma première vocation, peut-être la seule, a été celle d'indépendance et de liberté. Aucune autre ne m'incitait vraiment. J'étais bon élève, mais dissipé, couvert de prises et de citations, sauf celui de bonne conduite et d'histoire. J'ai aimé presque tous mes professeurs, surtout celui de quatrième qui était terrible, celui de philosophie qui était pittoresque et passionnant, celui de dessin qui était la douceur même. Ce dernier aurait pu faire de moi un graveur patient. Mais les artistes hésitent, m'a-t-il semblé, à détourner des occupations bourgeoises les enfants qu'ils préfèrent. Tel grand poète que vous aimez beaucoup, M. Robert Mallet, je le sais, ne disait-il pas un jour à un de ses enfants qui voulait faire de la musique ? Ah non, un artiste, cela suffit très largement dans une famille.
Mais pourquoi vos parents vous ont-ils empêché alors d'être graveur ? Est-ce simplement parce que la profession d'artiste leur paraissait incompatible avec une certaine aisance de vie ou une certaine dignité de vie ?
À la fin de mes études de lycéen, j'aurais voulu préparer normal lettres. Encore que des dons pour les mathématiques eussent été plus appréciés.
Alors vous aviez renoncé à ce désir d'être un dessinateur ?
Oui. Cependant, je me voyais très bien enseignant pendant toute la vie la littérature française et le latin et le grec dans un lycée de province, plutôt que le dessin. Mais le hasard, une première fois, dessina un tournant.
Mais comment alors vous êtes-vous orienté vers la médecine et la chirurgie puisque vous aviez, en somme, la vocation de professeur et non pas de professeur de médecine, de professeur de littérature ?
C'est ma mère qui crut devoir me faire préférer une profession libérale à une carrière de fonctionnaire de l'enseignement, ce qu'était mon père, pour plusieurs raisons. L'une d'elles en tête que voici. Un savant, médecin et géologue d'Auriac, Jean-Baptiste Rame, avait dit un jour à ma mère, en me regardant, j'avais 5 ans, « Faites-en donc un médecin plus tard. » Ma mère avait cru ce savant infaillible et elle avait suivi son conseil. Quant à moi, je n'ai jamais su pourquoi il l'avait donné. J'y gagnais, après un internat où le tumulte agressif des condisciples enseigne assez bien certaines âpretés de la vie, d'aller vers la liberté et les sortilèges de la capitale.
Vous avez, somme toute, subi la même expérience que Alain, votre grand ami Alain, qui aurait pu être polytechnicien puisqu'il était très doué pour les mathématiques et qu'un jour, on décida qu'il préparerait normal lettres parce qu'un professeur de lettres avait dit « mais c'est la voix du jeune Chartier ».
Oui, en effet, j'ai eu dans une certaine mesure l'occasion d'une pareille influence, mais j'ai renoncé sans trop d'amertume d'ailleurs à normal et je me suis découvert d'abord une âme d'étudiant sans aucune ambition, ne songeant qu'à devenir un jour médecin colonial. C'est pendant les étés de 1902 et 1903 que deux influences s'exercèrent curieusement sur moi dans le canton que j'allais quitter. Celle d'un jeune romantique éperdu qui me récitait infatigablement du Vigny et du Lamartine sur la terrasse de la mairie parce que ses poèmes servaient une aventure adultérine qu'il exaltait et qui amusait les commères. L'autre influence, celle d'un vieux monsieur revenu de bien des aventures et de bien des voyages, et qui, m'ayant fait assez vite joueur d'échecs, me voulait membre du cercle Philidor dès mon arrivée à Paris dans un café du Palais Royal où se réunissent, vous le savez, les invités de ce joli jeu. L'un de ces deux anciens amis m'a grisé de poésie à 17 ans et pour toujours. L'autre m'a informé des bien des choses de la vie parisienne et de la vie tout court, car elle est courte. Dans ma première année d'étudiant à la faculté des sciences, des camarades, après une série d'interrogations, me crurent apte au concours parisien. M'invitèrent dans leur groupe, me firent renoncer au projet simplifié de la médecine militaire, je cédai. Le hasard avait décidé une seconde fois. Mais je ne savais pas du tout, après l'externat des hôpitaux, si je resterais à Paris ou si j'irais en province. Pendant l'internat, j'optai pour la chirurgie, parce que la médecine m'était alors une curieuse coquetterie à se parer de beaucoup de scepticisme et que cette posture me fut très insupportable. Quant à la vocation de littérature, elle était alors exactement nulle. Aucune nostalgie de belles lettres ne me faisait songer à une carrière d'écrivain.
Vous aviez simplement le goût des lettres.
J'avais le goût des lettres et de la lecture. Et c'est une circonstance toute fortuite qui devait m'y conduire beaucoup plus tard à écrire. Je dus prononcer l'éloge funèbre de mon cher maître Paul Lecesne. Quand elle eut été publiée, des écrivains qui se firent convaincants m'engagèrent à écrire et voilà comment naquit ce que l'on pourrait croire avoir été une carrière préméditée. Dois-je cependant ajouter que ma première visite à Paris, sur les conseils, il est vrai, du vieux joueur d'échecs, fut pour la gouvernante d'Alfred de Musset, tant il est vrai que la province perpétuera toujours le romantisme.
Est-ce que vous aviez conservé le goût de la pédagogie, ou était-ce le goût des lettres qui l'emportait ? Je veux dire, est-ce que vous auriez aimé être professeur de littérature par désir de professer réellement devant des jeunes esprits ? Ou au contraire, simplement pour exprimer des choses littéraires qui vous intéressaient ?
De concours en concours, à Paris, je suis devenu agrégé puis professeur, et j'ai trouvé dans l'enseignement, je tiens à le dire, des satisfactions certaines. Non pas du tout par vocation ou hérédité de pédagogie, mais par une sorte de goût de la thérapeutique active. ayant découvert à travers l'inévitable frivolité de la vie d'étudiant les joies moins maigres que donnent les heures d'intellectualité et à quelle volupté vraie elles permettent d'accéder, je trouvais agréable d'y entraîner les autres, les jeunes surtout, sur qui une influence peut tant jouer. J'ai fait bien des cours d'amphithéâtre et bien des conférences au lit des malades. Cela me laisse un bon souvenir, au total. Mais l'ivresse d'éloquence et d'improvisation ne m'a pas longtemps retenu. Et de nouveau, j'ai préféré les travaux solitaires et l'étude pour soi et peut-être pour les autres de questions de pathologie encore incertaines. Les écrits aussi peuvent allumer l'étincelle dans l'esprit des étudiants.
Vous avez aussi donné libre cours à ce qui pourrait passer pour une fantaisie, mais ce qui était tout de même votre première vocation, votre goût du dessin. Et vous avez, dès cette époque-là, dessiné, ou plutôt gravé, de ces illustrations qui ont fait la joie de tant de bibliophiles. Il semble que cette vocation première ait eu un rejaillissement dans votre vie d'homme de science. Et comment expliquez-vous cela ?
Il est vrai que j'aime beaucoup à dessiner, mais ceci est aussi le fait du hasard, puisque c'est à Venise que la séduction des lieux et quelques refuges de silence m'amenèrent à crayonner. Aucune vocation réelle n'était jusque-là intervenue, ni les encouragements de mon professeur. Un goût précoce de solitude et d'application, je crois bien, me paraît avoir compté davantage. Faut-il le dire, et s'en accuser, en ces temps d'art abstrait, je préfère en dessin l'observation à l'imagination. La contemplation de l'objet à sa déformation ou à son interprétation présomptueuse. Même en art, je trouve, l'artisanat a du bon.
Il semble que vos dessins soient en parfait accord avec votre idéal en poésie. Un trait rigoureux, définitif, minutieux. Il semble qu'en vous, il y ait vraiment un accord parfait entre le chirurgien qui doit justement, lui, se donner tout entier à l'observation, le dessinateur est l'homme épris de poésie. Et j'en viens à vous demander comment vous avez réussi si bien à concilier l'idéal du chirurgien avec celui du critique littéraire. Peut-être justement par ce goût de la minutie, du précis, qui s'accorde tout de même avec la poésie.
Je suis moins sûr que vous ne voulez le paraître d'une conciliation harmonieuse entre les deux carrières. L'ardeur intellectuelle, en effet, risque d'accroître l'anxiété du chirurgien, son aptitude à imaginer et à redouter les difficultés. D'autre part, la rigueur exigée et enseignée par la chirurgie risque de faire trop préférer, même en littérature, la vérité aux fictions, les soins minutieux aux éclairs et aux grâces de l'abandon. Je crois, pour ne pas reculer devant un aveu, qu'une certaine passion d'ordre et de ponctualité surtout, m'a permis de donner cette impression depuis 15 ans de deux carrières parallèles.
Une impression de ponctualité, je dirais aussi une impression de ponctuation. Votre vie est extrêmement bien ponctuée. Et il semble que le manuel, que l'on retrouve dans le chirurgien, dans le dessinateur, dans le critique très très minutieux, dans l'exégète je dirais, sans employer ce mot au sens péjoratif qu'on lui donne généralement, eh bien il semble que le manuel en vous soit aussi important et agissant en vous que l'intellectuel.
Je suis manuel, en effet, dans la mesure où opérer et dessiner sont d'un manuel. Mais je ne le suis en rien s'il s'agit de se pencher sur les caprices d'un moteur d'auto ou d'une panne d'électricité domestique. Le dessin me donne un état très heureux, une des rares euphories de la vie. Les responsabilités m'y semblent légères à côté de celles des laparotomies et même du diagnostic. J'y trouve une des plus favorables occasions de silence, de rêve, de songerie. Et vers la fin de la vie, si vous me permettez ce souvenir, Paul Valéry, qui songeait à écrire un traité de la main, m'avait demandé de lui préparer quelques dessins où l'anatomiste lui paraissait devoir intervenir. Il se plaignait assez souvent, en effet, que les peintres d'aujourd'hui affectassent de ne plus savoir dessiner une main, un pied, un doigt, un cinquième doigt, disait-il.
Comment expliquez-vous, monsieur le professeur, que fasse si bon ménage dans votre vie, quoi que vous disiez, l'homme d'action que doit être tout chirurgien et l'homme de méditation qui est nécessairement un écrivain. Car ils font bon ménage, certainement, même si vous ne voulez pas le reconnaître, aussi spectaculairement que nous le désirons.
Je crois que l'homme d'action ou de métier a un besoin presque quotidien de détente. Je l'ai peut-être cherché dans la culture générale d'abord, puis dans des écrits personnels. Mais pendant bien des années, je n'avais été qu'un amateur d'art, ivre de musées non imaginaires, et n'aimant les villes que pour leurs trésors artistiques. Quand je crus connaître les plus beaux musées du monde, je ne voyageais plus guère. C'est alors, je crois, dans les chambres d'hôtel, en vacances, pour ne pas souffrir des heures particulièrement nulles auxquelles on est exposé, on y est exposé, que commencèrent quelques méditations et quelques travaux. Je n'ai pas cessé, croyez-le, de les considérer surtout comme des travaux d'amateur. Et c'est la vie de Vermeer, non pas celle de Mallarmé, que j'avais d'abord songé à écrire. Mais le tour du monde, commencé dans ce but, fut contrarié par la guerre.
Je voudrais revenir sur cette idée, insister sur ce que l'action a de part dans votre vie, de part importante. Il y a dans votre action non seulement un élément purement manuel, mais il y a aussi un élément intellectuel, car l'homme d'action se double dans son domaine d'un savant. Vous avez entrepris des recherches médicales et publié des livres scientifiques qui font autorité. On a trop tendance à l'oublier pour ne penser qu'à vos livres littéraires. Je voudrais savoir si vous appliquez les mêmes méthodes de réflexion, puis de rédaction pour les ouvrages médicaux et pour les ouvrages littéraires.
Peut-être dans quelques-uns des livres que vous voulez bien dire de critique littéraire, ai-je continué, sans trop le vouloir, une sorte de clinique humaine à laquelle des écrits de pathologues m'avaient entraîné. Mais si je vous disais deux des récompenses qui m'ont particulièrement enchanté dans la vie, vous verriez bien que la préméditation de carrière fut en réalité l'un de mes moindres soucis. Ces deux caresses du sort, ces deux magnifiques secousses, comme disait Barès, les voici, si vous me le permettez. D'abord, pour un livre, Diagnostics urgents, que j'avais voulu intituler « Vendre urgents », la lettre d'un praticien qui a voulu rester inconnu et qui me laisse croire, en des termes que je ne confierai qu'à vous, que par ce livre, j'ai aidé bien des médecins et des chirurgiens à sauver plus d'existences. De même, avoir été choisi cette année par les jeunes générations d'internes pour célébrer solennellement l'internat de Paris en Sorbonne, et pour présider aussi, en fait, leur fête si spirituelle et si poétique d'une nuit entière, m'a été, plus que tout institut, une satisfaction profonde. Ceci dit, si vous me permettez, il est possible que dans mes études d'histoire littéraire, et pour répondre à votre question plus exactement, je me sois assez souvent astreint à des scrupules d'information, de vérification, à une prudence d'affirmation que la science exige de ses servants. L'arbitraire, les hypothèses m'ennuient généralement. J'aime la saveur des faits, leur irremplaçable capital. Mais pour les animer, il ne faut pas que de la ferveur et que de l'amour.
Vous nous avez dit tout à l'heure quels avaient été vos premiers contacts avec la littérature. Je voudrais vous demander maintenant comment vous avez pénétré dans les milieux littéraires à Paris. Est-ce que vous avez commencé par être un collectionneur d'autographes et un bibliophile avant d'écrire vos premiers ouvrages? Ou est-ce parce que vous vous intéressiez à la littérature que peu à peu vous êtes devenu ce collectionneur célèbre?
Je ne me rappelle plus du tout à la vérité comment j'ai peu à peu connu bien des écrivains. Pour quelques-uns, je le sais, c'est par la médecine ou la chirurgie. Pour la plupart, par cette admiration préférentielle, il faut dire, que leur intelligence, le désintéressement de leur activité et l'agrément de leur commerce m'inspiraient et que je leur laissais sans doute voir volontiers. Mais j'étais bibliophile 30 ans avant de songer à écrire. J'étais collectionneur d'autographes 20 ans avant de devenir biographe ou exégète. Les passions ont donc précédé les vertus, il faut le reconnaître. Peut-être les ont-elles préparées.
Ces passions peuvent être des vertus d'ailleurs.
Ces passions ont peut-être été des vertus. Je n'ai appris que lentement cependant à aimer le travail. Alors qu'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs projets de mes vacances.
Mais qu'est-ce qui vous a incité à devenir le grand spécialiste de Mallarmé en particulier?
Pendant la guerre de 1914, j'apprenais sur les fronts du Soissonnais et de Champagne des poèmes de Mallarmé. La perfection de ces poèmes de Mallarmé, leur hauteur d'inspiration, me firent bientôt trouver sommaire, ou chanteur de charme, ou trombone de chambre, ou trop orateur, ou simulateur, bien des autres poètes que j'avais d'abord élus. Et plus tard, l'homme que je découvrais dans les lettres de Mallarmé, recueillies une à une, me parut l'un des plus purs connus vus.
Répugner aux indiscrétions ne peut obliger à ne retenir de la vie d'un poète que ses extases ou ses éclairs de voyant, ses transes de créateur, sa figuration d'homme de lettres, et encore quelques pittoresques involontaires ou délibérés. Il est un monologue plus personnel que l'on désire entendre, et qui peut être aussi digne de triompher des siècles que les traits de la supériorité. Pour ne pas s'en tenir ingénument à des abréviations trop respectueuses ou à un personnage compassé qui eût choisi lui-même ses éclairages, on ne doit pas trop lui permettre de se dérober ou de ne se définir qu'avec les habiletés de sa complaisance. Le déroulement d'une vie exceptionnelle implique, à côté des efforts opiniâtres, les abandons, les retours et aussi les heures de l'inaction, de la besogne, de la dispersion, de l'usure. Le squelette trop paré de cette vie serait loin de valoir aux yeux de l'avenir les contrastes et les traverses de sa complexité. D'ailleurs, le véritable grand homme, quelles qu'aient été les misères ou les gloires de son parcours, supporte ordinairement des regards rapprochés, et il est rare que la familiarité de son colloque avec ses proches et avec lui-même, quand on la découvre, n'enrichisse pas ou ne confirme pas son rayonnement. Au contraire, les précautions de posture, les coquetteries cabotines, quelques préparatifs insidieux en vue de la postérité, flétrissent l'image ou la font grimaçante et douteuse. L'écrivain dont il est ici question l'emporta sur la plupart par sa discrétion, son raffinement, l'élévation naturelle et la précision d'idéal. Ses actes n'ont jamais contredit ses propos et ses engagements.
Sa vie était très incomplètement étudiée. Je résolus de le faire, mais une nouvelle guerre. Elle favorise toujours la poésie. J'allais dire, vous verrez. M'offrit les heures nécessaires à un long travail. Mais cette fois encore sans aucune préoccupation de carrière, long effort de biographie d'ailleurs, plus que d'exégèse. Les secrets de la poésie mallarméenne étant nombreux, très nombreux, ceux qui croient les résumer en une ou deux formules s'abusent et nous abusent. Le temps des analyses définitives n'est pas encore venu, et Valéry a fort bien dit que mettre en prose de beaux vers, c'est les mettre en bière. Cependant, les nécrophores sont nombreux. J'en connais un, comme dirait Montaigne, qui ne saurait me dire qu'il a le derrière galeux s'il ne va sur le champ étudier dans son lexicon ce que c'est que galeux, ce que c'est que derrière.
Vous avez parlé tout de suite de Valéry. Je dois vous demander maintenant comment vous êtes devenu l'ami de Valéry puis d'Alain. Et quelles ont été les influences spirituelles dans le cadre de la littérature qui vous ont le plus marqué?
Je n'ai jamais été jusqu'à me dire l'ami de Valéry et d'Alain, qui avaient 15 ans de plus que moi et que je vénérais.
Mais ils ont dit, eux, que vous aviez été leur ami, ce qui revient au même pour nous.
Comment les ai-je connus? Pour Alain, je l'ai raconté dans un livre récent. Pour Valéry, dont je savais la jeune Parke par cœur vers 1918, bien des personnes à qui j'en avais parlé avec enthousiasme songèrent très souvent à nous réunir. Grâce à Valéry et Alain, j'ai vu de près d'authentiques très grands hommes, d'extrême simplicité naturellement, car ce sont les ratés et les niais en littérature et en médecine qui pontifient. Ils étaient en même temps des esprits libres, des penseurs droits, sans s'imagrer, et Dieu merci, sans système. Mais parmi les influences auxquelles vous m'invitez à penser, je m'en voudrais de ne pas citer Barrès, que les deux grands hommes précédents, d'ailleurs, ne supportaient plus. Chacun de ses livres, au contraire, m'avait ravi, et sa prose me paraît avoir enrichi 5 ou 6 des meilleurs écrivains d'aujourd'hui, l'un, d'ailleurs, s'étant montré ingrat jusqu'à l'insolence.
Vous ne pouvez pas dire qui c'est.
Non.
Nous nous en doutons. Je voudrais aussi vous demander d'évoquer, ici je ferai appel à vos souvenirs, d'évoquer ce fameux déjeuner qu'on a appelé ce déjeuner de la Pérouse, où justement vous avez mis en contact les deux grands amis que vous avez eus, Alain et Valéry. Vous avez cité les passages principaux de la tachygraphie, comme vous dites, selon un mot qui est certainement de vous, je ne l'ai jamais vu employé ailleurs, la tachygraphie que vous avez rédigée le soir du jour où ils s'étaient réunis au restaurant La Pérouse. Pourriez-vous évoquer cette rencontre entre Alain et Valéry, en quelques mots?
J'ai quelques scrupules à l'éviter, à l'évoquer encore une fois, étant donné que je lui ai consacré bien des pages dans le dernier livre dont nous parlions. Et pourtant, cela reste pour moi, vous pouvez bien le penser, une sorte de souvenir grandiose. Et non pas tant par l'importance que je leur découvrais à chacun, que par l'extrême gentillesse qu'ils faisaient presque toujours voir dans ce genre de réunion. Il est très curieux que les plus grands hommes que j'ai connus se soient montrés toujours dans l'intimité parfaitement simple, et qu'au contraire, ceux qui n'ont presque rien à dire se montrent en public presque toujours, et solennels, et d'une dignité qui est probablement cache-misère.
Eh bien, quel but poursuivez-vous, monsieur le professeur, en vous faisant le commentateur scrupuleux et l'analyste si pénétrant des grandes personnalités que vous nous avez appris à mieux connaître. En particulier, Alain, justement, Valéry, Mallarmé, Dupuytren et tous les autres grands médecins auxquels vous avez consacré des études.
L'admiration a été le sentiment le plus constant de ma vie. Sans doute, en étudiant de grandes vies de médecins et d'écrivains, ai-je d'abord songé à me plaire avec eux plus intimement et ensuite à proposer à d'autres cette heureuse compagnie. Peut-être en moi, le médecin a-t-il trouvé, contre le néant ou l'absurde auquel bien des méditations risquent de conduire, une manière de salut, de réconfort tonique, pourquoi ne pas dire de religion, le culte des meilleurs. C'est à vous de me dire si je les ai regardés parfois en clinicien et pris de diagnostics exacts.
Mais si c'est à nous de le dire, nous ne pouvons que conclure que vos diagnostics nous sont parus toujours très vrais, les plus judicieux, toujours les mieux fondés. Je voudrais vous poser maintenant une question qui vous paraîtra peut-être assez insolite, presque insolente. Quelle est celle de vos œuvres littéraires à laquelle vous attachez le plus d'importance ?
Je ne vais pas jusque-là, mais je crois que les deux livres de littérature que je préfère, ce sont La vie de Mallarmé et Alain. Je me garderai bien de dire qu'ils sont ce que j'aurais voulu qu'ils fussent. Si j'osais employer une formule connue, je répéterai que jusqu'ici, je n'ai fait qu'exercer les becs de ma plume.
C'est à Paris que la chatte la plus notoire de Mallarmé, Lilith, connue des mardistes, des courriéristes et constamment présente dans les préoccupations domestiques et la correspondance familiale de son maître, allait pendant au moins 12 ans partager l'intimité du poète du silence. Les habitués de la rue de Rome la voyaient entre deux portes ou la retenaient parmi eux pendant les entretiens enivrants du magicien. Il s'imposait à cet auditoire de raffinés par des sortilèges multiples. Sa voix était une combinaison surprenante et charmante de netteté, de chant retenu, de modulation impérieuse, de vibrations profondes, de distinction. Ses images étaient d'un inspiré, ses développements d'un savant, ses mots de l'esprit le plus prompt, le moins limité, le moins imprévisible. On voyait tour à tour le fumeur si disert planer en des méditations impénétrables, se laisser transfigurer par de soudaines extases, et puis les regards abaissés se concentrer avec une pompe familière pour des formules définitives. Ou bien les sourcils relevés et la main droite dessinant des vols de pensée, il excellait dans une éloquence chatoyante et escaladait de période en période sans effort les sommets lumineux. Pour quelques-unes des oreilles délicates du monde des lettres, il enchantait l'année entière tout un soir de chaque semaine. On n'a peut-être jamais vu dans une ville un cerveau si peu féru d'endoctriner, s'imposer à des auditeurs moins vains, séduire des intelligences plus diverses et avides et indépendantes, accéder à plus rares beautés. Comme on le savait noblement détourner des démarches de l'habileté, son prestige moral, aux yeux des disciples, égalait sa supériorité spirituelle. Lilith enroulait quelquefois sa promenade recueillie ou sa recherche furtive de caresses autour des jambes de l'orateur ou de celles des mardistes, devenus progressivement dans le soir presque méconnaissables et comme estompés par l'épais nuage de fumée qui brouillait assez vite l'amicale cohue. Les sentiments de Mallarmé pour Lilith ont toujours répugné à toute enflure romantique, littéraire ou commune. Il ne compliquait pas trop Lilith d'hypocrisie ou d'étrange contemplation. De cette animalité bondissante ou engourdie, il n'attendait sans doute ni révélation d'importance, ni bizarrerie très profonde. Il n'en a parlé qu'avec une charmante simplicité de solitaire souriant. Il n'a dédié à sa chatte ni long poème, ni sonnet opulent. Elle ne lui a point été non plus l'occasion de faire parade d'un cœur très tendre ou d'une particulière compréhension des animaux. Il ne se mirait point en elle. Il abordait ce petit problème en toute familiarité, faisait à son sujet des remarques originales, mais ne les mettait point en larges alexandrins. Ce n'était ni l'un de ses thèmes poétiques, ni l'occasion d'un savant symbole, mais le calme plaisir d'une cohabitation, et sans s'y arrêter trop, l'occasion de trouvailles exquises par un esprit remarquablement observateur et lucide.
Est-ce que ce sont les idées qui vous intéressent avant tout, ou bien sont-ce les hommes ?
Je crois que ce qui m'intéresse surtout, ce sont les idées à travers certains hommes, et seulement ceux qui ont, selon le mot de Sainte-Beuve, le sceptre d'or du style. Même en prose, par exemple, Mallarmé a un sceptre d'or.
Il ne vous suffit donc pas de vous trouver en face d'un caractère, d'un tempérament, il faut encore que ce soit un écrivain né.
Oui, et je ne doute pas, pour en revenir à l'exemple auquel je tiens, qu'un jour un grand critique, à la fois poète, grammairien et sensible au meilleur humour, fera sur ce sujet, la prose de Mallarmé, un grand livre, après lequel bien des prosateurs seront vus ce qu'ils sont, monotones et prévisibles.
Vous représentez très exactement, monsieur le professeur, le type de l'encyclopédiste. Nous n'en avons plus tellement à notre époque pour qu'il soit bon de le remarquer. Pouvez-vous nous donner, et c'est encore une définition bien difficile que je vous demande, une définition de l'idéal de l'encyclopédiste?
Oh, je suis trop loin de me tenir pour encyclopédiste. Ma curiosité elle-même n'a pas de ses exigences.
Mais nous sommes prêts de reconnaître que vous êtes un encyclopédiste, certainement.
Et cependant, ma mémoire, loin de la croire, ce qu'Alain a bien voulu la dire, je la trouve au contraire, à côté de ce que j'aurais désiré qu'elle fût, tout à fait insuffisante. Que ne peut-on retenir, par exemple, en une sorte d'anthologie vivante et pour d'inépuisables récitations à soi-même, tout ce qu'on a lu de beau et de fort et entendu de spirituel? Si c'est être encyclopédique, selon la plus modeste des définitions, que d'avoir des connaissances variées, j'ai pu, la délectation plus que l'érudition m'ayant guidé, m'appliquer à le souhaiter, mais de là à le devenir.
Une autre question suit celle que je viens de vous poser. J'aimerais savoir où vous vous sentez le plus chez vous, à l'Académie française, à l'Académie de médecine ou à l'Académie de chirurgie.
Permettez-moi une déclaration à laquelle je tiens beaucoup d'abord. Être d'une académie ne comporte pas, autant qu'on le dit, visites, démarches et souriants saluts. Beaucoup des académiciens se plaisent au contraire à dispenser ceux qu'ils connaissent du devoir d'escalier et des révérences d'une saison. Dans un pays qui, pour être le moins ennuyeux du monde, se croit souvent le plus malin, celle des académies, la vieille, qui est le plus exposée aux facéties et aux colibés, reste, je dois vous l'avouer, particulièrement flatteuse. Bavarder avec ses confrères avant la séance est chaque fois un régal, et je ne connais aucune réunion d'hommes qui comporte pareille diversité de tempérament, une somme égale de travaux supérieurs et d'expérience, autant d'esprit, oui d'esprit, mais le meilleur. En revanche, dois-je le reconnaître pour m'en tenir au franc-parler aujourd'hui, les séances académiques partout déçoivent quelquefois. Tout à coup, ces hommes remarquables risquent pour une heure d'avoir à donner leur temps à de nombreux problèmes de commémoration ou de cérémonie. Le dictionnaire lui-même risque de bâiller un peu.
Finalement, vous ne nous avez pas dit exactement dans quelle académie vous vous sentiez le plus à l'aise. J'ai cru comprendre que vous ne vous sentiez à l'aise dans aucune académie, que c'était ce qui précédait, ce qui prolongeait les académies qui vous intéressaient le plus. En effet, vous êtes très peu un académiste. Cela n'est pas pour nous étonner. Mais vous avez en vous, et c'est cela, justement, ce qui nous montre en vous, cet homme peu entiché d'académisme, vous avez en vous un poète. Car il faut être poète pour aimer la poésie comme vous l'aimez et pour exprimer cet amour comme vous l'avez fait. Je voudrais savoir si vous n'avez jamais été tenté de versifier vous-même. En tout cas, nous n'en savons rien, vous n'avez rien publié de ce genre.
J'ai fait bien des vers, il faut bien le reconnaître, mais je n'en ai publié qu'une seule fois, à 17 ans, un petit poème très attendri, dans un journal local, sur la mort d'un chardonneret. Tous les autres vers ont été soigneusement envoyés dans la corbeille à papier et qu'ils y restent.
Je ne sais pas si vous avez eu raison de jeter tous ces poèmes. En tout cas, vous avez encore obéi là à un sentiment d'autocritique que l'on ne peut qu'admirer. Quelles sont, monsieur le professeur, les recettes pratiques qui vous ont permis de mener la vie que vous avez choisie ou qui vous a été impartie, puisque finalement vous ne l'avez pas tellement choisie, d'après ce que vous nous avez dit? Enfin, cette vie est à la fois celle d'un chirurgien qui ne ferait que de la chirurgie, et elle est aussi celle d'un écrivain qui ne ferait que de la critique. Il y a en vous deux vies, en somme. Vous êtes un homme avec une vie double. Et vous paraissez, dans chacune de ces existences, aller aux limites du possible. Quelles sont donc ces recettes?
Eh bien, des recettes pratiques pour travailler en bicéphale, c'est-à-dire à deux occupations fort opposées, je ne les ai que trop lentement découvertes. L'apprentissage de la vie est toujours retardataire, et la jeunesse, si surfaite, fait perdre sottement beaucoup d'heures. Avant d'aimer l'hygiène du sommeil, par exemple, celle de la sobriété, que d'imprudence, que de fatigue, avant de préférer le silence, le bonheur de solitude, à combien de bavardages et de soirs perdus s'expose-t-on? Mais ce que vous voulez bien croire, une harmonie de deux activités, me paraît quelquefois avoir été un téméraire défi. Beaucoup ne le pardonnent pas volontiers et n'accordent à personne cette double aptitude. Cela les excite à croire ou à dire, avec des sentiments divers quelques-uns bas, que l'une des activités ne peut que nuire à l'autre et peu à peu la reléguer.
Vous nous dites que c'est au prix d'une grande règle de vie, d'une règle très stricte, que vous avez pu mener de front ces occupations différentes, je ne dirais pas divergentes, car je ne vois pas d'opposition, j'y vois complément, moi. Mais vous avez l'air de vous montrer sous un jour assez austère. Or, pour ceux qui vous connaissent bien, vous êtes un très bon vivant. Vous aimez la vie et vous ne donnez pas du tout une impression d'austérité. Alors je voudrais vous demander de préciser ce point, car vous êtes un homme très, j'allais dire sensuel, mais très sensoriel, un homme qui a ses attaches avec ce qui est charnel, ce qui est sensible.
Eh bien, je vais essayer de vous répondre, d'ailleurs très brièvement, vous le pensez bien sur ce chapitre. Il est très vrai que j'ai beaucoup aimé la vie. Mais je crois bien ne pas l'avoir aimé dans ses manifestations en effet les plus ordinaires, et m'y être surtout bien entraîné par de très nombreuses heures de solitude qui, celles-là, restent inconnues. Et encore, quelquefois, je suis exposé à être désigné comme ayant assisté à une générale ou à une représentation. C'est une légende qui, sans doute, me suivra jusqu'au bout, car je n'ai pas été au théâtre depuis 18 mois. J'y vais très rarement, à peine 2 ou 3 fois par an. Et la gaieté que l'on a pu me voir est assez souvent protectrice ou préservatrice.
Quoi qu'il en soit, la caractéristique majeure de votre intelligence et de votre cœur, c'est évidemment la tolérance. Et je ne crois pas que vous me contredirez. En manière de conclusion, je voudrais vous demander de nous dire comment, de l'esprit de compréhension qui est le vôtre, on passe, ou du moins on peut passer, à cette tolérance capable de rendre les hommes à la fois si sociables et si sociaux, c'est-à-dire comme vous êtes vous-même.
Votre diagnostic, si vous me permettez de vous voir à votre tour en docteur, me flatte beaucoup, mais n'est pas sans me surprendre.
Un diagnostic favorable, oui.
Il est presque trop favorable. Je suis tolérant, je crois, mais peu sociable, et pas du tout social. Peut-être même certaines irritabilités, m'invitant à imaginer aisément celles des autres, m'aident-elles dans la tolérance et dans une apparente et brève sociabilité. Dans les périodes où je travaille beaucoup intellectuellement, cette irritabilité s'accroît. Elle diminue si j'en reste à l'action professionnelle. J'ai cru vérifier ainsi que les écrivains sont exposés à une nervosité très particulière, et je n'en ai été que plus heureusement surpris du mérite qu'ont beaucoup d'entre eux quand ils font admirer de l'enjouement et de l'affabilité. Mais pardon, voilà que j'allais finir par une sorte de consultation ou de certificat. Je ne sais pas si la compréhension rend toujours tolérant, mais je sais que 50 ans de médecine d'hôpital rendent profondément compatissants, amis des malheureux et très affligés de leur nombre.
C'était Domaine de l'Esprit, une émission de Michel Manol réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Henri Mondor de l'Académie française s'est entretenu avec Robert Mallet. Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie française, a lu des extraits de Mallarmé plus intime. Assistant de production, Harold Portnoy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 6 mai 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.